Chapitre 8. Une représentation privée. Lorsque M. Escamp se fut retiré, Hector Mancel s'approcha de Rivière et, lui prenant le bras amicalement, lui dit « Étrange, n'est-ce pas ?»« Assez étrange, en effet. » Les deux hommes sortirent. Ils se rendirent d'abord dans le pavillon du concierge où Rivière donna quelques instructions. Puis ils pénétrèrent dans une petite salle communiquant par un couloir en forme de wagon avec les bâtiments du montage. Au fond de cette salle, il y avait un écran de dimension réduite. Rivière s'assit dans un fauteuil. L'inspecteur l'imita. Comme l'opérateur se faisait attendre, Rivière se leva, sortit, appela. Finalement, la représentation commença. Une cigarette aux lèvres, l'œil distrait, Hector Mancel ne prêta qu'une faible attention à tout le début du film. De temps en temps, il posait une question à Jean Rivière, qui, à la manière d'un auteur dramatique, s'était assis en retrait de l'inspecteur, de manière à suivre sur le visage de son invité l'effet produit par son œuvre. Soudain, Suzy Pommier, vêtue d'une étincelante robe de soirée, parut à l'écran. Un éventail à la main, elle entra dans sa chambre. L'industriel, incarné par Harry Paul Donat, le suivit peu après. Il devait être près de 2 heures du matin. En sortant du théâtre, les deux amoureux avaient été dansés dans une boîte de nuit. Harry Paul Donat, lui, n'était pas habillé. Hector Mancel remarqua qu'il portait un monocle. En effet, à chaque instant, il le prenait entre ses doigts et, tirant sa pochette, l'essuyait. Suzy s'approcha d'une glace et sourit à sa propre image. Son partenaire s'était assis. On sentait que ce méridional s'était mis dans la tête d'incarner un bel homme du type anglais. Tous ses gestes étaient mesurés. À un moment, Suzy lui demanda l'heure. Sans regarder sa montre, en desserrant à peine les lèvres, il répondit « 2 heures ». Il alluma une cigarette, aspira la première bouffée la tête en arrière, comme pour mieux la savourer, puis, en un long jet un peu ridicule, l'expira. « Qu'il est mauvais !» murmura Rivière. « Pourquoi l'avez-vous engagé dans ce cas ?» Suzy Pommier y tenait. Elle prétendait qu'il était tout à fait l'homme du rôle. Comme, d'autre part, il n'y a pas plus docile que lui, qu'il acceptait toutes les observations que lui faisait Suzy, j'ai pensé qu'il s'en tirerait. La vérité était qu'il ne s'en tirait pas du tout, alors que Suzy jouait le rôle d'une femme adaptée avec une vérité, un naturel étonnant, il s'embourbait, lui, dans un air compassé qu'il croyait visiblement grand genre. Tout était pose, affectation en lui. Il fumait toujours. C'était d'ailleurs ce qu'il faisait avec le plus grand naturel. Suzy ôta sa robe, mais avec quel art! En même temps qu'elle feignait de n'attacher aucun prix à ce qu'elle portait, elle savait avec quelle habileté, quel tact, laisser deviner qu'elle n'avait jamais eu des robes semblables avant de connaître l'industriel qu'incarnait avec lourdeur le médiocre Donat. Mais tout à coup, il se leva. D'un geste théâtral, comme s'il n'avait pu se convaincre que le studio dans lequel il se trouvait représentait une chambre à coucher, il jeta sa cigarette n'importe où, puis il s'approcha de Suzy. Elle était en combinaison, une combinaison très courte qu'elle s'amusait à tirer sur ses genoux. Il ouvrit la bouche avant de parler, la referma, l'ouvrit de nouveau, afin que le public comprît bien qu'il hésitait à dire ce qu'il avait à dire. Finalement, il réussit à articuler ces mots. « Il faut que je te dise la vérité. »« Je t'écoute, chérie. » Je suis obligée de quitter la France. Mes affaires m'appellent à l'étranger. Et à mon retour, dans 1 an, 2 peut-être, je serai obligée de me marier. Ma famille l'exige. » Suzy demeura un instant interdite. Puis elle sourit. « Tu plaisantes ? » dit-elle. « Non, c'est la vérité. »« Tu veux donc m'abandonner ? Je ne te crois pas capable d'une chose pareille. » « Je ne puis faire autrement. » « Oh, crois-moi, si cela ne dépendait que de moi, je resterai toute ma vie près de toi. »« De qui cela dépend-il, sinon de toi ?»« De ma famille. »« Et ton amour pour moi n'est pas assez grand pour passer outre ?»« Mon amour pour toi est immense, Mais avant de te connaître, mes parents m'avaient élevé, avaient fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas le droit d'aller contre leur volonté. C'était donc pour m'abandonner que tu m'as tiré de l'effroyable vie que je menais ? C'est donc au moment où je commençais à reprendre goût à l'existence, c'est donc à ce moment que tu décides de te débarrasser de moi ? Tu désires que je redevienne ce que j'étais, ce que j'avais cessé d'être grâce à toi ? Ne crois pas, ma chérie, que je n'ai pas de cœur. Je pars, c'est vrai, mais je ne te laisse pas dans le besoin. J'ai tout prévu. Hier matin, j'ai fait déposer dans une banque, à ton nom, une somme de 100 000 francs. Ce n'est pas énorme, mais cela te permettra de faire face aux premières obligations. Plus tard, quand je serai libre, quand je pourrai disposer de ma fortune, je continuerai à te venir en aide. Suzy éclata d'un rire saccadé. Il fallait te demander, avant de faire cette formalité bancaire, si j'accepterais. Tu ne peux pas refuser. C'est ce qui te trompe, justement. Oui, je sais, tu trouves qu'elle est insuffisante. Parfaitement, elle est insuffisante. Je m'arrangerai pour la doubler. Suzy regarda son amant d'un air narquois. Tu pourrais la quadrupler, la décupler, qu'elle serait toujours insuffisante. Ce que je t'ai donné, entends-tu, c'est mon amour, c'est ma reconnaissance.
Je le sais.
Et cela ne s'achète pas, lâche. Cette injure transfigura Donna, qui, jusqu'alors, avait montré beaucoup de calme. Ses yeux brillèrent. Une expression méchante se peignit sur son visage. Tu m'as appelé lâche, moi ? Oui, lâche, lâche, lâche ! Car c'est de la lâcheté d'agir comme tu le fais. M'entends-tu ? C'est de la lâcheté. Tu profites de ce que tu es le plus fort. Tu t'es laissé aimer, tu as tout fait pour que mon amour devienne de plus en plus fort, et brusquement, tu pars, tu avoues que tu as l'intention de te marier. Lâche, lâche, grand lâche ! Donna, saisissant un presse-papier de bronze, le serra avec fureur, mais il se contint. Puis son visage se radoucit subitement. « Ne parlons plus de cela, veux-tu » dit-il d'une voix tranquille. « Je m'absente un instant. Fais ta toilette pendant ce temps. » En disant ces mots, il ouvrit la porte de la chambre et disparut. Restée seule, Suzy garda durant quelques instants la plus complète immobilité, à un tel point que, pendant plusieurs secondes, on eut l'impression que le film s'était arrêté. Puis elle eut une crise de désespoir. Les cheveux défaits, elle allait et venait en tous sens, se cachant parfois le visage dans ses mains, tout en marchant, ce qui faisait qu'elle se butait contre les meubles. Tout à coup, elle se ressaisit. Elle redressa la tête comme une bête acculée et passa dans la salle de bain. Par la porte restée ouverte, on apercevait tantôt une épaule nue, tantôt un bras. Puis on entendit un clapotis. Un instant après, Donna pénétrait de nouveau dans la pièce. Deux médailles étaient épinglées au revers de son veston. Très droit, le monocle à l'œil, cherchant visiblement à donner le plus de dignité possible à sa personne, il entra dans la salle de bain. « Regarde, » dit-il en désignant du doigt ses médailles, « oseras-tu à présent répéter que je suis un lâche ?»«
Tu en aurais le corps couvert, lâche, que je te le répéterai !» cria Suzy hors d'elle.
Cette fois, Donna perdit complètement le contrôle de lui-même. Comme un automate, il s'approcha de la baignoire, puis, saisissant la jeune femme à la gorge, il serra, serra. Elle se mit à hurler, à se débattre. L'appareil de prise de vue avait été placé de telle façon qu'on n'apercevait que le dos du criminel. Bientôt, il se mit en mouvement, tourna autour de la baignoire. La scène de l'assassinat apparut alors dans toute son horreur. Des gerbes d'eau s'élevaient dans tous les sens. Donna continuait de serrer la gorge de Suzy. Bientôt, elle se débattit avec moins de force. Dans un éclair pourtant, on aperçut nettement une main crispée saisir les décorations, les arracher, les garder prisonnières. Puis le monocle de Donna tomba dans la baignoire. L'appareil de prise de vue s'éleva alors de manière à dominer toute la scène. Au fond de la baignoire, un être inerte reposait, les jambes ramenées presque sur la poitrine. Atterrée, Donna contemplait son œuvre, les bras pendant le long du corps. Soudain, l'appareil se rapprocha de la scène du crime. Lorsqu'il en fut à 1 mètre à peine, on aperçut Donna portant une main à son visage, puis, s'accroupissant, trempait ses bras, sans avoir même pris le temps d'enlever son veston ni retrousser ses manches, cherchant avec anxiété son monocle, puis tentait d'arracher de la main refermée de la morte les médailles qui s'y trouvaient. « Arrêtez !» cria Hector Mancel à l'opérateur. La lumière se fit. « Cela vous suffit ?» demanda Rivière. « Non, non, je voudrais qu'on retourne ce passage. » L'inspecteur était méconnaissable. Il était incapable de rester immobile. On eût dit que, scandalisé par la scène dramatique qui venait de se dérouler devant ses yeux, il aurait voulu pouvoir intervenir. « Ne vous excitez pas comme cela, » fit Rivière avec un sourire. « Vous n'êtes pas en présence de l'assassin. »« C'est ce qui vous trompe, » répondit d'un trait l'inspecteur. « Donna, Harry-Paul Donna, n'essayez pas de comprendre. » « Je m'en garderai bien. Cela vaut mieux. » Lorsque la scène de l'assassinat eut été de nouveau présentée à Hector Mancel, il se leva, repoussa sa chaise. « L'assassin est connu, » dit-il à Rivière, qu'il regardait avec surprise. « Qui est-il ? Vous le saurez dans quelques jours. »